BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission. Cette semaine, nous recevons le collectif Nous Toutes de l'Heure, présenté par Maya. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va, merci.
Alors, avant de parler de Nous Toutes, on va quand même parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous pour nos auditeurs ? Vous êtes impliquée, vous, au sein de Nous Toutes, c'est ça ?
Oui, je suis militante au sein du collectif Nous Toutes 27. Et auprès du national aussi, nous toutes, on participe évidemment à leur campagne, etc. Et au niveau du 27, on essaye de faire des actions avec les militantes, selon évidemment nos disponibilités à chacune. Mais voilà, je suis militante principalement.
Et comment est-ce que vous êtes retrouvée militante au sein de Nous Toutes ?
Alors en fait, au début, ça a été avec la marche qui était en 2019, qui a rassemblé 100 000 personnes, la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Et en fait, on a découvert le collectif, Nous Toutes, et sa charte. Il y a une charte donc, qui est disponible sur le site noustoutes.org. Et à partir du moment où on adhère à la charte, en fait, on peut se revendiquer militant ou militante Nous Toutes. Et c'est mon cas, ainsi que les militantes du 27. Voilà, tout ce qui rentre dans le cadre de la charte, pas de souci. C'est le collectif adhère, pas de problème. Après, si on a d'autres choses à défendre, il n'y a pas de souci non plus. Mais tout ce qui concerne le collectif, c'est en rapport avec cette fameuse charte suite à la marche en 2019.
J'imagine que cet engagement féministe, c'est quelque chose qui est en vous, quoi, au final.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est aujourd'hui, moi, je sais que j'arrive à parler pour celles qui ne peuvent pas ou qui ne le peuvent plus, malheureusement. Donc, tant que j'ai cette force, je le ferai. Et peut-être un jour, j'y arriverai plus et d'autres prendront le relais. Voilà, c'est ce qu'on fait. On donne tout ce qu'on peut pour aider les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles au quotidien.
Justement, parlez-nous du coup du collectif Nous Toutes. Qu'est-ce que c'est d'une manière assez détaillée? Quels objectifs est-ce que ce collectif a?
Alors, le collectif Nous Toutes, donc, c'est un collectif qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et la manière de le faire, ça va être par à chaque féminicide une interpellation du gouvernement, donc du président directement, en fait même. Voilà, là on en est au 14e féminicide de l'année au moment où on parle. On va faire aussi des actions de sensibilisation. Qu'est-ce que les violences sexistes et sexuelles? On a des formations. Pareil, c'est disponible sur noustoutes.org. Nous, on les diffuse aussi sur nos réseaux sociaux au niveau du comité local de l'Eure. On est deux dans le comité à pouvoir dispenser la formation de niveau 1 sur les violences sexistes et sexuelles. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut nous contacter sur nos pages Facebook, Insta et Twitter pour demander une formation. En ligne, c'est possible également.
Et ces formations, elles consistent en quoi ?
En fait, c'est vraiment identifier qu'est-ce qu'une violence sexiste et sexuelle, qu'est-ce qu'un agissement sexiste, une injure publique, une injure sexiste non publique, qu'est-ce qu'un viol, qu'est-ce que... Voilà, c'est vraiment déjà qualifier en fait, de quoi on parle, à quel moment ça devient une violence. Que dit la loi au sujet des violences et le mécanisme des violences aussi, puisqu'on constate qu'il y a toujours un même schéma de violence. Et que dire à une victime? C'est une formation qui prend à peu près 1h30 à 2h avec les questions et qui permet déjà de faire une première approche de quoi on parle. Qu'est-ce qu'une violence sexiste et sexuelle? Ça, il y a aussi des formations au niveau national, mais après, il y a d'autres formations que celle-ci qui est la base, en fait. On a la formation de niveau 2, donc là, on va vraiment plus loin, même dans les violences administratives, etc., la rétention de papier, c'est des choses auxquelles on ne pense pas beaucoup. On a aussi la culture du viol, etc., et tout ce que des militantes pourraient apporter, militantes et militants, mais principalement des militantes, évidemment, pourraient apporter comme connaissance dans le domaine des violences sexistes et sexuelles, du féminisme en général, sont les bienvenus pour proposer des formations, qui sont validées ou non par le collectif, évidemment. Si ça rentre dans la charte, il n'y a pas de problème, par exemple.
C'est un sujet qu'on entend de plus en plus, tout ce travail fait autour des violences sexuelles et sexistes. On sent que les paroles, les voix se délient de plus en plus.
Oui, en fait, on remercie beaucoup ce qui a vraiment déclenché la prise de conscience niveau sociétal, on va dire, c'est plutôt c'est le hashtag MeToo, le fameux, en 2018. Mais déjà, avant, on se battait. C'est juste qu'on ne nous entendait pas. On était minoritaire. C'était pas vraiment pris au sérieux. Mais depuis MeToo, en fait, on a beaucoup, beaucoup de hashtags qui sont sortis. En niveau français, c'était balance ton porc. Puis après, on a balance ton bar. On a, tous ces hashtags qui partent des réseaux sociaux, qui permettent de libérer une parole jusque-là, en fait, on pouvait se sentir seul de notre côté. Récemment, j'ai vu sur Insta alors c'est assez difficile, c'est trigger warning viol quand même. Ça s'appelle Je t'ai écrit une lettre, et c'est une femme qui écrit une lettre sous une forme de bande dessinée à son agresseur. Donc ça parle de consentement, du fait de dire non et que céder n'est pas consentir. Et ce qu'elle explique, c'est que, donc c'est une histoire vraie. Ce qu'elle explique, c'est que elle s'est rendue compte que en parlant de cette histoire, en la partageant avec une ou deux amies, en fait, elle aussi, puis peut-être un petit peu sous un autre format, mais voilà que, en fait, elle n'était pas seule et qu'elle s'est dit, en écrivant ça, je vais peut-être pouvoir libérer et faire ouvrir les yeux à plusieurs centaines de femmes. Et c'est plein d'initiatives comme ça qui permettent de voir qu'on n'est pas seul et qu'on est plus forte quand on est ensemble, quoi.
S'il y a quelque chose aussi là-dessus, c'est, comme vous avez dit, faire ouvrir les yeux à certaines femmes qui ont vécu ces violences sans s'en rendre compte sur le coup, c'est ça ?
Tout à fait, parce qu'on a par exemple la fameuse zone grise. Donc ça, c'était un terme qu'on ne connaissait pas vraiment, qu'on ne connaissait pas du tout, même il y a quelques années. La zone grise où, on n'est pas d'accord, mais on va dire oui, comme ça, on sera peinard après. Du coup, c'est pas le consentement, là, il n'y a pas de consentement, en fait. Et que dire non une fois, ça normalement, ça devrait valoir pour après. C'est pas en insistant que, on finit par dire oui. C'est pour ça que le non, c'est non, et céder n'est pas consentir, c'est très important, en fait, que même ensuite, quand il peut y avoir des poursuites ou autres, c'est pas parce qu'elle a fini par céder qu'elle était d'accord.
C'est quelque chose qui est vachement important et qu'on connaissait vraiment pas du tout avant parce que on se rendait pas compte ou on ne voulait pas s'en rendre compte dans la société.
Je pense qu'on voulait pas s'en rendre compte parce que à un moment quand quelqu'un dit non ou même quand quelqu'un dit pas forcément non d'une voix éclairée, ça reste quand même un traumatisme par la suite. Et la pression, alors on va utiliser le mot qu'il y en a certainement qui vont pas aimer, mais la société patriarcale qui est l'homme veut, il prend, c'est lui qui décide, on s'y est fait au fil des années, mais là au bout d'un moment c'est non, c'est pas normal, moi aussi j'ai le droit d'avoir le choix, j'ai le droit d'avoir ma voix et j'ai le droit de le dire. Et c'est grâce à toutes ces actions et c'est comme j'ai dit, le hashtag MeToo a vraiment permis une grosse libération de la parole. Quand on voit avec une autre militante, donc nous on était en 2012, on faisait la slut walk, donc la marche des salopes en français, on était dans les rues de Rouen, on devait être une cinquantaine. Et qu'on voit après, 100 000 personnes pour la marche Nous Toutes, après donc MeToo, c'était il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Concrètement, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et c'est top, on va pouvoir libérer la parole, vraiment avoir du poids face aux institutions aussi. Et on le voit dans toutes les campagnes, on voit apparaître des mesures contre les violences sexistes et sexuelles qui n'existaient pas forcément auparavant. Et donc, on continue de faire pression, ça, on lâchera pas parce que on veut des mesures concrètes. Quand on fait des appels au gouvernement, on demande à débloquer des vrais fonds. On a une campagne, c'était plutôt l'année dernière, c'était Stop Talking, Start Funding. Donc, on arrête les grands mots et maintenant, on met vraiment de l'argent sur la table pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles.
Il y a aussi un discours qu'on entendait beaucoup à l'époque, qu'on entend encore un peu quand même aujourd'hui, c'est notamment la tenue qui justifiait ces actes. Évidemment que c'est faux. J'imagine que ça, c'est pareil, on peut aussi le rapprocher avec du harcèlement de rue aussi que les femmes peuvent connaître.
C'est ça. En fait, à partir du moment où on donne son avis à quelqu'un qui n'est pas sollicité, non, on le fait pas en fait. C'est facile de demander à quelqu'un, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler ? Si c'est non, c'est non. Si c'est oui, on peut continuer la conversation. Après, pour ce qui est des commentaires, effectivement, sur des tenues, etc., on s'habille pour nous, pas pour les gens dans la rue. Et en fait, moi, j'ai des conseils pour les personnes qui ont des doutes pour savoir s'ils vont draguer ou pas. Bah, en fait, si déjà ils ont un doute, c'est que ça va être lourd et ça va être du harcèlement. C'est, si on sait pas, c'est, ouais, on peut plus rien dire. Non, en fait, on peut poser la question, le consentement aussi, de pouvoir discuter avec une personne, c'est important. On n'a pas besoin, dans la rue, d'avoir des commentaires, que ce soit sur notre tenue, sur notre maquillage, notre coiffure, nos... enfin, voilà. Si on nous pose la question, pas de problème, hein. Si on se dit oui, c'est oui. Si on dit non, c'est non. Si on dit c'est non. Et voilà. Tant qu'il n'y a pas un oui, c'est non. Et le harcèlement de rue, on rappelle, est puni par la loi, etc. Tout comme le harcèlement sexuel, donc c'est sur les, enfin, on va dire le harcèlement sexuel, donc on connaît, c'est des agissements répétés. Voilà, c'est quelqu'un qui va dire, hey, dis donc, ton décolleté, etc. Enfin,
souvent dans le milieu professionnel.
Dans le milieu professionnel, mais sur les réseaux sociaux aussi. Et le harcèlement sexuel, c'est valable dès la première fois quand on envoie. Par exemple, je pense aux messieurs, une dick pic à une non sollicitée à une personne, dès la première fois, c'est du harcèlement sexuel.
Et c'est puni par la loi également.
Et c'est puni par la loi.
Le harcèlement de rue, c'est pas aussi que des propos, on va dire, entre guillemets, c'est aussi des regards de
alors,
quoi
c'est, ça peut des être effectivement insistants. Des regards insistants, ce qui va être beaucoup plus difficile à prouver. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans une culture de c'est à la victime de prouver que ça a eu lieu et non pas à l'agresseur
de prouver que ça
n'a pas eu lieu et alors que ce soit au niveau juridique, enfin on le voit encore hein, quand avec les campagnes qu'on a pu faire de savoir comment ça se passe dans un commissariat quand on porte plainte, donc la campagne paye ta plainte ou même au niveau sociétal puisque si on va dire oui tous les mecs me regardaient, et bah évidemment dans notre entourage ou quelqu'un même qu'on connaît pas forcément mais dans le milieu professionnel ça va être oui, mais t'étais habillée comment aussi? Et ça, c'est un jugement. C'est, ben, en fait, peu importe comment j'étais habillée, on n'a pas à me regarder, me faire des clins d'œil. Enfin, voilà. Non, c'est... À la limite, trouver quelqu'un joli dans la rue, c'est pas répréhensible, hein, mais le rendre mal à l'aise la personne, ça, c'est non. C'est non.
Abordons un sujet alors, d'actualité qu'on va prendre avec... des grandes pincettes étant donné la présomption d'innocence avec l'enquête qu'il y a en cours sur le maire adjoint de la ville de Vernon, Yoann Auvray. Il y a eu une action récemment sur des collages dans la ville. Vous teniez à tout prix à dire que c'était pas le collectif Nous Toutes qui n'avait rien à voir avec ça.
Alors, le collectif Nous Toutes n'a pas fait les collages dans la ville de Vernon. Nous avions interpellé effectivement la municipalité via des stories sur nos réseaux sociaux pour savoir ce qui allait être fait, notamment pour la mise à l'abri de victimes ou de potentielles futures victimes, par exemple. Nous, c'est vraiment, on veut être là, présente et dire aux victimes qu'on les croit. Qu'elles ne sont pas seules et que on n'a pas le droit de violer. La loi l'interdit. On rappelle d'ailleurs les numéros d'urgence. Donc, viol femme info, c'est le 0800 05 95 95 et violence femme info, le 39 19. Voilà, nous tenons à quand même préciser à la victime qu'on est là, qu'elle n'est pas seule et c'est important. Puisqu'on sait que voilà, on est bien consciente que la présomption d'innocence est de rigueur puisque le jugement n'a pas encore été rendu, mais nous souhaitons quand même apporter notre soutien à la victime.
Il y a quelque chose, alors pas uniquement sur cette enquête, sur toutes ces enquêtes d'une manière générale, c'est qu'on parle quasiment tout le temps uniquement de l'accusé, mais pas de la victime.
Oui, parce que effectivement, c'est d'abord la présomption d'innocence. Bon, la présomption de vérité, elle n'existe pas hein, aujourd'hui, malheureusement. Je dis malheureusement, ça, c'est vraiment très personnel. Hein. C'est pas c'est pas la voix du collectif, c'est ma voix. Mais je trouve ça dommage en fait de d'abord mettre les projecteurs sur l'agresseur en fait et que la victime doit se cacher. Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui. Évidemment qu'on ne va pas crier le nom d'une victime sur tous les toits.
Bien sûr.
Mais il ne faut pas oublier qu'elle existe et qu'elle doit être prise en charge correctement et que des mesures doivent être prises pour la protéger. puisque à chaque fois qu'il y a une présomption d'innocence, après là je vais parler dans d'autres cadres évidemment, moi je préfère soutenir une victime et la protéger dans le doute où elle risque d'avoir des représailles, voire pire, hein, de mourir sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Parce que ben, dans les histoires de féminicide, s'il y a des accusations à tort, ben, l'agresseur il risque rarement de mourir que la victime, oui. Mmh. Là, je prends vraiment un autre cas, hein, qui n'est pas du tout le cas dont on parlait avant.
Il doit y avoir aussi, j'imagine, une volonté d'apporter un suivi psychologique aussi pour les victimes.
Oui.
Parce que ce sont des traumatismes.
C'est ça.
Quand... Si les faits sont avérés, si ça s'est vraiment passé, quoi.
Si jamais les faits sont avérés, mais même avant le jugement, en fait, il y a une prise en charge psychologique à faire, puisque un jugement, ça peut prendre énormément de temps. Et en fait, bah, évidemment, il y a tout un battage médiatique autour d'une affaire. Voilà, quand ça concerne évidemment en plus une personnalité publique. Donc ça peut être très violent, surtout si des personnes savent qui est la victime. Ça peut être violent de se prendre oui, tu mens, etc. Enfin, ça existe, hein. Le harcèlement en ligne aussi existe. Ça peut être ce qu'on peut appeler aussi du slut-shaming, tu l'as bien cherché, etc. Ne pas nier ce qui s'est passé, mais dire oui, c'est ta faute, etc. On a aussi... Enfin voilà, on a vraiment tout un pan on va culpabiliser la victime, minimiser les faits aussi, oui, non mais ça va, enfin parce que en plus on sait notamment que dans un cadre proche, il va y avoir beaucoup de minimisation et de culpabilisation de la victime. Donc la prise en charge psy et en fait sécurité aussi, hein, de la personne, d'éloignement, etc., doit être prise en compte immédiatement. Dans le doute, en fait, hein, même dans le OK présomption d'innocence, mais OK, il y a un risque.
Mmh, c'est clair. Passons à d'autres sujets, notamment les campagnes que nous toutes réalisent en ce moment d'un point de vue national, notamment une campagne avec de l'éducation sexuelle et un manque au final au sein de l'éducation nationale.
C'est ça. Alors, c'est la campagne, donc c'est le hashtag SexEducation Nationale. Donc, il y a une enquête qui a été menée par le collectif. Et en fait, cette enquête montre que, selon la loi, il faudrait qu'il y ait 21 séances d'éducation sexuelle sur 7 ans, donc du collège au lycée, pour les élèves. Et aujourd'hui, on constate qu'il y en a 2,7. Donc, entre 2 et 3 en 7 ans. Donc, les cours d'éducation sexuelle, ça peut être une première porte. Effectivement, première grosse porte d'ailleurs, hein, pour expliquer qu'est-ce que la sexualité, l'affection, etc. dans la sexualité et mettre des notions effectivement de violence sexiste et sexuelle, c'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, toutes ces notions de consentement pourraient être vues durant ce cycle-là. Et malheureusement aujourd'hui, en fait avec 3 cours en 7 ans, c'est très peu, et en plus, je pense que ça doit être des cours de 1 heure, donc pas grand-chose qui est vu, et la sensibilisation, du coup, elle n'est pas terrible, quoi.
Beaucoup de violences sexuelles dans ce genre sont dues à de l'ignorance, au final, puisque, je vais dire, on n'a pas été éduqué plus jeune.
Effectivement, après MeToo, Balance ton porc, etc., quand c'est bien arrivé en France... on a des témoignages, notamment d'hommes, principalement d'hommes d'ailleurs, qui disaient « Ah, mais moi, je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, elle n'était pas d'accord. » Oui, alors, ce n'est pas obvious, hein, évidemment, mais comme on a effectivement éduqué, je pense, plutôt notre génération de trentenaires et avant, évidemment, mais là, les jeunes, on essaie justement de les capter sur ces sujets-là. On nous a pas dit qu'en fait on avait le droit de dire non, et on n'a pas dit non plus, principalement aux garçons encore une fois, que c'était pas que son désir à lui qui comptait, qu'il fallait que les deux côtés soient en adéquation finalement. Donc effectivement, ça a permis une libération de la parole, ça a fait ouvrir les yeux à certains hommes, mais pas tous, hein. Évidemment, non, voilà, ça reste encore compliqué, mais les notions de consentement deviennent de plus en plus faciles à aborder, et on arrive de plus en plus à mettre devant leurs contradictions des hommes qui disent « Ouais, enfin bon, ah bon, tu parles comme ça, toi ? Non, mais t'es pas au courant de tout ce qui se passe. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'affronter un homme qui a un discours complètement aberrant sur le consentement aujourd'hui qu'avant, effectivement.
Autre campagne, en quelques mots, concernant notamment les milieux festifs dans les bars, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe autour de cette campagne ?
Alors, on a eu pas mal donc avec le hashtag balance ton bar, de témoignages de femmes qui étaient droguées à leur insu, dans leur verre, etc. On a vu pas mal de choses fleurir, hein, des capuchons pour les verres, etc. Mais on s'est dit, on va faire plutôt une campagne pour dire aux agresseurs, n'agressez pas. Et voilà, ça paraît bête, mais c'est important. Donc, on a la campagne Safe Bar lancée par le collectif Nous Toutes 27, pas 27, pardon, Nancy. Donc, au niveau local de Nancy. Donc, c'est une campagne qui a été reprise par le National de prévention contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Et il y a une cagnotte qui a été lancée donc, par Nous Toutes Nancy. Elle cherche à rassembler 3000 euros pour pouvoir faire des affiches, des stickers et des guides d'information à mettre dans les bars, les festivals et un peu partout, en fait, là où on fait la fête et où on a encore beaucoup d'agressions liées à la drogue mise à l'insu des victimes souvent dans leur verre, ou des personnes qui sont en état d'ébriété, malheureusement, subir des agressions. Voilà, donc, c'est cette campagne-là pour... en fait, on fait la fête, mais sereinement.
Pour conclure cette émission, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, vous, le collectif Nous Toutes, dans le 27 ?
Alors, on a la page Facebook, donc Nous Toutes 27, Twitter et Instagram, c'est pareil, Nous Toutes 27. On a aussi notre boîte mail, donc c'est noustoutes27@gmail.com.
Eh bien, merci beaucoup, Maya.
Pas de souci, merci à vous.
Merci d'être venu nous présenter le collectif Nous Toutes de l'heure. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon, 99.3.